le monde du silence. Ces hommes, ce sont les plongeurs de la Calypso, le navire de recherche sous-marine du commandant Cousteau.
Et ça vous dit peut-être quelque chose. Le monde du silence, c'est le fameux film documentaire français de Jacques-Yves Cousteau et de Louis Malle. Et ça nous ramène en 1957 aux États-Unis où il a remporté l'Oscar du meilleur film documentaire. Pour moi, plongeuse sous-marine amateur, ça a été vraiment un coup de cœur. Et quand je l'ai découvert, et je pense que tous les plongeurs connaissent ce film, c'est le premier film qui nous montrait les explorations sous-marines à bord de la Calypso. Et c'était la première fois qu'on descendait comme ça de façon assez étonnante, là, avec des scaphandres autonomes et aussi profonds. Là. C'était des premières images tournées à 75 mètres de profondeur. Il y avait eu un film avant, Le Sixième Continent, un film italien, une couple d'années avant, aussi, qui avait gagné un prix à la Nostra de Venise. Ces films-là ont certainement influencé mon prochain invité, l'explorateur des fonds marins, Mario Cyr, qui est avec nous. Bonjour, Mario.
Ben bonjour Isabelle, hey, tu connais vraiment bien ton histoire de la plongée, hein?
Écoute, puis j'aime tellement les films, puis sincèrement, tu sais, quand t'es un plongeur au Québec, évidemment, on est bon, hein? Les plongeurs québécois, on l'a souvent dit, Mario, mais il faut le dire, on est des meilleurs plongeurs parce qu'on est habitué d'abord à plonger dans des eaux assez froides, merci, avec très peu de visibilité, dans des conditions pas toujours faciles, avec des courants oui, parfois qui surprennent, oui.
Et avec beaucoup d'équipements sur le dos.
Avec beaucoup. Voilà, exactement. Mario, toi, est-ce que tu as été influencé par cette cinématographie? C'est Cousteau, il a dû certainement te donner envie de pratiquer ce métier-là.
Ah ben certain, ben non. Et moi, je m'en souviens avec mon père, il écoutait ça religieusement lui aussi. Donc, c'était vraiment un devoir et on attendait ce moment-là pour écouter justement tous les films, toute la série Cousteau. Et c'est certain qu'il y a eu une influence immense parce que c'était quand tu regardes ça, puis c'est surtout quand il décidait où il allait aller à la première mission, là, parce que souvent il finissait, puis là, il disait ben là, on va aller à tel endroit et tel endroit. Puis je m'en souviens, j'avais un petit globe terrestre, puis là j'allais voir où était cet endroit. J'étais déjà fasciné par l'exploration puis les voyages à cette époque-là. Là.
Et toi-même, on est très fiers de tes exploits parce que tu es le premier Québécois à avoir eu l'occasion d'aller filmer une faune et une flore incroyables. Rappelle-nous d'ailleurs ces images exclusives, les premières que tu as pu filmer.
Ben, vraiment, dans les premières, c'est certain qu'en 1991, ben, j'ai eu un appel de National Geographic là, pour aller filmer les morses dans l'Arctique. Et à l'époque, ben, il y avait pas d'image qui existait sous l'eau de morses. Il y en avait plein à la surface. Et je me souviens très bien du téléphone à laquelle que j'avais reçu de Washington, donc de National Geographic, puis qui me demandait, puis j'en croyais comme pas mes oreilles qu'on m'appelle pour aller faire cette expédition-là. Et j'avais accepté sans trop poser de questions pour m'en apercevoir qu'après, que ben, les morses, ça peut être dangereux, puis ça peut être, donc ça peut même être fatal. Et à force de discuter avec des Inuits, avec des scientifiques, où tout le monde me disait que j'allais pas sortir vivant de cette expérience-là. J'avais tout simplement trouvé quelque chose qui est très facile, mais il a fallu quand même que j'y pense, c'était d'amener une cage à requins avec moi, sachant qu'à l'intérieur d'une cage, il n'y avait pas de problème. Et j'ai été extrêmement chanceux aussi parce que il y a eu beaucoup d'animaux qui sont venus faire un tour autour de la cage, donc beaucoup de morses. Et ça a donné des images à laquelle on a gagné des prix. Puis je dirais que c'est vraiment à partir de 1991, avec ce tournage-là, que j'ai rentré dans la grande famille des caméramans sous-marins. Après ouais. Ça, en 2009, ça a été encore une fois avec National Geographic à aller chercher les premières images d'ours polaires dans l'eau. Là. Donc, c'est le fun. C'est le fun de participer à des choses de même. C'est le fun aussi de passer par-dessus nos peurs, hein, parce que je peux pas dire que j'ai pas peur. Là, c'est pas les gens me posent souvent la question, puis je peux vous dire que j'ai eu peur plus qu'à mon tour, mais là, ce qui est important, c'est de passer par-dessus cette peur-là, donc la contrôler pour pouvoir faire le travail qu'on a à faire. Là.
Ouais. Quelle est la fois où tu as eu le plus peur sous l'eau? Parce que c'est vrai, on peut avoir peur. Ça reste un milieu hostile pour l'humain. Et puis hostile, ça ne veut pas dire forcément négatif, mais il faut être conscient. On n'est pas chez nous sous l'eau. On n'est pas des poissons.
Exactement, c'est le mot que tu m'as l'air de la bouche. On n'est pas chez nous, donc on rentre dans un monde complètement où on vient de là quand même. Hein, ouais. C'est certain, on est issu de la mer, mais on n'est pas fait pour vivre physiologiquement. Donc, tous les sens sont, je dirais, transformés. On n'est pas dans un monde où on est habitué qu'on peut se tourner vite ou faire n'importe quelle action. Et je dirais que la fois que j'ai eu le plus peur, ça reste encore avec des morts. C'est pas la première fois, c'est pas en 91, mais c'est en 94 où je me suis trouvé vraiment là dans un gros groupe de morts. Puis y a une mamie ours qui m'avait frappé là puis qui m'avait disloqué l'épaule. Donc je restais craintif avec les morts. J'y suis allé vraiment plusieurs fois par après, mais ça reste encore l'animal avec lequel j'ai le plus de crainte là d'aller filmer sous l'eau.
Parce qu'ils sont stiffs là, ils sont forts hein, ils sont très très lourds, ils sont quand même imposants comme bêtes. Mais est-ce qu'ils mordent, est-ce qu'ils attaquent, comment ça se passe avec les morses de ton expérience là? T'es un de ceux qui peut le plus en parler sur la planète probablement.
Ben c'est qu'ils vont frapper avec le dessus de la tête, puis un morse, ben les morses adultes, les mâles dominants, on parle d'une tonne et demie, mais on parle de 3000 livres. Donc,
quand mon Dieu, une tonne et demie, 3000 livres?
Ah oui, c'est immense. Donc, ça frappe comme un train, là. T'sais, c'est vraiment, puis il va frapper avec le dessus de la tête. Les gens pensent plutôt qu'il va attaquer avec leur défense, mais non, le dessus de la tête, ça a 10 cm d'épais, là, 4 pouces d'épais. Donc, c'est un crâne qui est très, très épais. C'est fait pour défoncer de la glace, hein. Il passe à travers de la glace. Donc,
pour les gens qui jouent au soccer, ils te font comme une espèce de coup de boule, c'est ça?
Exactement. Donc, exactement, c'est un coup de boule qui est très, très, très solide. Puis, quand on est dans un troupeau de morses, il y en a vraiment deux catégories qu'il faut surveiller. Donc, c'est les mâles dominants, bien sûr. Puis, tu as aussi, quand il y a des mères et des petits, il y a des mamies, donc des matantes qui viennent aider les mamans quand ils vont allaiter leurs petits, donc pour les protéger. Et si tu t'approches trop d'une mère et d'un petit, ben tu peux te faire frapper par une mamie. Et les mâles dominants, ben ils protègent leur harem aussi, hein. Donc quand il y a des intrus, donc comme moi dans l'eau, mais c'est certain qu'on va se faire charger. Puis un troupeau de morses, des morses, faut bien comprendre que c'est des espèces grégaires, donc très collées les uns sur les autres. Et quand ils viennent vers toi, mais c'est un peu comme une falaise là qui s'en vient vers toi, c'est-à-dire que tu vois même pas de jour entre les morses tellement ils sont collés. Il y a pas de poisson qui va rester là, il y a pas de phoque, tout ce qui est dans l'eau va justement se déplacer pour laisser ce troupeau là passer. C'est ça. Ça frappe pas.
Est-ce que tu dirais que c'est quasiment plus dangereux que certains requins? On a, tu sais, comme on a une phobie des requins, beaucoup aussi à cause du film Jaws, là.
Ben oui.
La cinématographie nous a beaucoup influencé, finalement, Mario C. Hein? Mais c'est vrai que les gens vont avoir peur d'abord et avant tout des requins. Mais tu sais, moi, j'ai déjà plongé avec des murènes. Enlève-toi de là aussi, là.
Ouais, c'est sûr que les requins, c'est un mal aimé, puis tout ça vient, mais comme tu l'as dit, hein, des fameux films Jaws, donc des fameux films de Spielberg, donc, puis en plus, il y en a eu beaucoup, t'as eu Jaws 1, Jaws 2, Jaws 3, ça ne finissait plus, mais on sait aujourd'hui qu'on peut tout prendre les films de Jaws et les décortiquer, et puis il n'y a rien qui se tient, là. Ça, c'est complètement tout inventé, c'est vraiment de la fiction, mais ça a créé une psychose planétaire. C'est-à-dire que vraiment, dans le monde scientifique, on peut presque dire aujourd'hui que quand on parle des requins, il y a le avant Jaws puis le après. Là. Tu sais, c'est devenu un mal aimé. Le lendemain des films, des Américains, des Australiens partaient à bord des bateaux avec des fusils pour tuer les requins. Là. Tellement les haïssaient. Et les requins, c'est d'une importance capitale, mais comme toute la nature. Mais vraiment, quand on parle des requins, ils sont en haut de la chaîne alimentaire. Et surtout, ils maintiennent cette chaîne alimentaire-là. Et certains scientifiques nous disent que demain matin, plus de requins, mais dans deux ans, trois ans après, c'est le chaos total dans les océans. Là.
Il y a un équilibre écologique, il y a une chaîne alimentaire aussi fabuleuse sous l'eau, là, Mario C.
Ah ben oui, c'est certain. Donc, tu sais, quand moi, je me retrouve au Flow Edge, donc à la lisière des glaces, mais on sait que dès que la glace casse, Donc, ça veut dire que le soleil pénètre dans l'eau. Donc là, tu vas avoir le développement des algues et ces algues-là vont s'accrocher sous la banquise et c'est là que la vie commence. Ça veut dire que dès que les algues ont proliféré, ben ensuite tu as des petits zooplanctons, donc de type copépodes, donc de vraiment de petits animaux microscopiques qui vont venir pour bouffer ces algues-là et ensuite ça va attirer des poissons un petit peu plus gros, qui va attirer encore des poissons plus gros comme mettons la morue arctique. Et qu'ensuite va attirer les phoques et qui va attirer les ours polaires. Donc, c'est toute la chaîne alimentaire qui s'installe et il y a une vie incroyable sous ces glaces-là.
Ouais. Tu vas nous en parler d'ailleurs de sous les glaces parce qu'on veut t'entendre sur ta nouvelle exposition immersive. Ça va être à partir du mois de juin. Au plafond de la vieille gare de Montréal, mais vous inquiétez pas, si vous êtes de l'extérieur de Montréal, vous allez pouvoir aussi éventuellement avoir accès à ces images qui sont assez uniques. Là. Je vous parlais tout à l'heure là, de Cousteau, mais je pense qu'on en a un chez nous, il s'appelle Mario Cyr, et pour un petit clin d'œil, on a pensé de trouver ça, Mario. Ça, tout le monde la connaît?
Ah! Tout le monde a eu peur et on en a
hey, même le docteur Arruda la connaît, l'analogie des requins. C'est devenu populaire, même par la santé publique. Tu restes avec nous. Mario Cyr, explorateur des fonds marins, est avec nous. C'est sûr qu'on va parler un petit peu des îles de la Madeleine, bien sûr. On revient tout de suite après. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Mario est avec nous, il aime ça répondre à vos questions. Si vous voulez savoir plein d'affaires sur ce qu'il a vu... des questions plus techniques sur les poissons, sur la faune, la flore sous-marine. 514-790-9850. 1-866-790-9850.
C'est pour vous dire qu'une petite place comme ça, on se débrouille bien même si ça paraît pas. Chanter, danser, puis s'amuser, la pointe au loup, elle est là pour ça. On a une belle église, puis une post-office, un gros magasin du bas du terrain. On a de l'asphalte, une belle jetée, GWG
de l'aîné. Ah, c'est des souvenirs d'enfance à Pointe-aux-Loup. Mon Dieu que j'ai adoré cet endroit-là, des étés merveilleux à la Pointe-aux-Loup. Hey, je salue Jacinthe Chevary qui nous écoute de temps en temps, mon ami d'enfance de la Pointe-aux-Loup, puis toute la belle gang des Îles-de-la-Madeleine. Mon Dieu, ouais, que j'aime cet endroit. T'es trop chanceux, Mario. Puis tous les gens qui nous écoutent des îles, il y en a beaucoup. Puis il y a beaucoup de Québécois qui vont aller faire du tourisme là-bas. Sachez que...
Oui,
notre... ouais, hein, toi qui as un bistrot familial, un magasin de plongée là-bas, ça va être un été occupé.
Ouais, ben on pense que ça va revenir probablement, à moins qu'il se passe quelque chose d'ici la mi-juin, juillet. Là, mais on pense que... Ben, on sait qu'en 2019, hein, il y a eu quand même pas loin de 90 000 personnes qui sont venues nous voir durant l'été. Et on pense que ça va quand même probablement revenir très près de ça. Là. L'année passée, on a descendu à 35 000, COVID oblige. Mais c'est certain que quand on regarde aujourd'hui, là, ben, presque tout ce qu'on parle de maisons ou d'endroits, de terrains de camping, tout ça est pas mal loué là, pour
ouais,
l'été. Là.
Voilà. Et puis toi, tu vas donner des cours de plongée. Je voyais même sur ton Facebook que tu disais qu'il restait 2-3 places. Là.
Bon, il en reste plus.
Là, il en reste plus. Bon, ben c'est ça. Écoute, on va parlons de cette nouvelle exposition immersive sous les glaces là, que tu t'apprêtes à lancer. Ça va être début juin. Des images fabuleuses, j'en suis sûre. 360 degrés projetées au plafond de la vieille gare de Montréal. Je disais que c'était un peu une idée d'un autre Madelino, hein?
Ben oui. Donc, c'est sûr que ben, Jeannot Pinchot, donc, qui est vraiment un membre fondateur du Sept-Éloise. On se connaît, on se suit depuis de nombreuses années. Puis c'est drôle, hein, parce que si moi, je suis complètement à une extrémité des îles, à Grande-Anté, c'est là que je suis né, c'est là que j'ai été élevé, puis Jeannot, ben, c'est sur la grave à Brevard, donc complètement à l'autre bout. On a toujours suivi qu'est-ce qu'on faisait tous les deux, puis l'été, ben, on se voit, puis on se dit un petit allô, là, mais on n'avait jamais travaillé, ensemble, puis quand il m'a appelé à l'automne, en disant qu'il avait eu une idée parce qu'il partait une nouvelle branche du cirque Éloise, qui s'appelle Éloise Expo. Donc, il voulait faire une exposition immersive, puis qu'il avait pensé à moi avec mes images, avec l'article. Et bien sûr, moi, ça m'intéressait, mais jamais que je pensais que ça allait prendre autant d'ampleur, mais surtout que ça allait être aussi beau, aussi grandiose.
Ouais.
Et j'aurais dû m'en douter, parce que le cirque Éloise, hein, veut dire, c'est quand même reconnu mondialement, puis ils font des choses en grand, puis de belles choses. Et écoute, j'en suis vraiment très, très fier là, de cette exposition-là.
Ouais, ça va être... Donc, on va regarder ça Comment on va regarder ça? On va avoir le... On va avoir le ciel, les yeux au plafond, c'est ça? Hein? On va être comme sous l'eau, finalement?
Partout, il va y avoir des projections sur, à terre, au plafond, tout le tour. C'est vraiment un parcours à peu près de 45 minutes. Et quand on va rentrer à l'intérieur, ben, c'est justement, on va voir l'article, on va voir mes équipements, avec quoi je fais des images. On va voir aussi beaucoup les Inuits. Il y a des comatiques, donc des traîneaux Inuits. On va voir les camps de base où on reste quand on est, comme de raison dans l'article, on fait ce qu'on appelle du camping d'hiver pendant 4-5 semaines. Mm. Et ensuite, on va se diriger justement au Floor Edge, donc à la bordure des glaces, puis on va plonger, on va s'immerger. Cet hiver, j'ai été faire des images à 360 degrés, donc on prend cette glace-là qui était au-dessus de ma caméra, puis on l'amène au plafond justement de la vieille gare, puis les personnes qui vont être à l'intérieur donc vont se retrouver comme sous la glace et il va y avoir plein de phoques, de morses, de narvals, de belugas qui vont venir voir sur les écrans. Il y a aussi le son de ces animaux-là qui est extraordinaire. Donc, c'est vraiment une immersion au cœur de la plongée, là, comme je l'ai fait, comme je l'ai subi, et je pense que les gens vont adorer. C'était pour moi très, très clair que je voulais que ça touche à toutes les générations. Donc, pour moi, c'est important qu'on fasse des choses pour les enfants. Puis, on a retenu ça. Donc, ça s'adresse autant aux enfants, aux parents, aux grands-parents. Je pense que tout le monde va y trouver son compte. Pour moi aussi, ce qui est important, c'est que ça soit très positif. Hein. On sait qu'on vit avec ce qu'on vit aujourd'hui avec la COVID, ben on est beaucoup dans des interdictions. Pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, pas le droit d'aller là, mais là, on voulait que les gens vraiment soient vraiment attentifs à ce qui se passe autour d'eux, se laissent vraiment imprégner. Et c'est certain qu'on voit de la glace s'effondre, puis on n'a pas besoin de le dire. Les gens sont assez intelligents pour comprendre que ça va pas bien dans l'article.
Ben voilà, c'est ça, tu dis optimiste malgré tout, regarde optimiste. En même temps, quand tu regardes l'évolution des changements climatiques... c'est sûr que c'est pas juste... je pense que c'est toi qui disais...
Non, c'est pas tout beau, là. C'est pas tout beau, mais dans cette exposition-là, on a voulu vraiment plus faire passer un bon moment aux gens, mais surtout aussi de crier que ça va pas bien, mais en même temps, de le faire par l'image, surtout en disant, ben voyez comment c'est beau et comment on peut faire pour...
préserver ça.
Beauté,
exact, ouais, exact. Tu parles du flow edge, là. Explique-nous bien ce que c'est que le flow edge. Tu dis la bordure des glaces, ça ressemble à quoi? C'est où exactement? Ouais. Parce que là, tu es allé dans l'Arctique canadien. C'est ça? C'est où exactement?
Il y a plusieurs flow edge où les images ont été faites. Là, c'est surtout du côté de Arctic Bay, du côté aussi de Ripples Bay. Et quand on parle du flow edge, parce que j'ai vraiment de la difficulté à trouver des mots français pour le flow edge, là, c'est vraiment où la glace se termine et que l'océan commence. Mm. Donc, on est à la bordure, et comme j'expliquais tantôt, où il y a une vie incroyable qui s'installe là. Donc, t'es debout sur la glace, et devant toi, c'est l'océan à perte de vue, ou bien tu vas voir des îles de la Terre beaucoup plus loin. Mais là, t'as tous les animaux qui sont sur cette bordure de glace-là. Donc, tu vas voir des morses, des narvals, des belugas, des phoques, des ours polaires, des oiseaux, des baleines boréales. Donc, tout est devant toi. Et c'est un spectacle là vraiment extraordinaire. Et c'est vraiment parce que quand je suis dans l'eau, tant que je suis à cette bordure-là, il y a cette vie-là incroyable. Mais si je me déplace, mettons, à 1 demi-kilomètre de la glace, il n'y a presque plus rien. C'est tout se tient près de la glace. Donc, c'est pour ça que ça devient un endroit magique. Et moi, je l'ai toujours dit, je le dis encore, que pour moi, n'importe où dans le monde, j'ai eu la chance de travailler dans plus de 80 pays différents, là. Mais vraiment, l'endroit que j'aime le plus à me retrouver, c'est sur le Flow Edge. Donc, c'est vraiment sur cette bordure de glace-là. Là.
Ah ouais, c'est fascinant. Écoute, on a une bonne question de Jacques. Bonjour, Jacques.
Bonjour, Isabelle.
Allez-y.
Je voudrais te demander, Mario, j'étais un petit aventurier, moi, puis je me suis retrouvé dans des sommets vraiment splendides où ce que vraiment je faisais un avec l'univers. Fait qu'on dirait que ces moments-là que j'ai connus donnaient un sens à ma vie. Mm. Pour toi, c'est-tu la même chose?
C'est exactement pareil quand on se retrouve du côté de l'Arctique, ça devient viscéral. Ça veut dire que quand tu as vécu une expérience où ça touchait à plusieurs sens, donc, tu sais, l'article, tu vois, c'est extraordinaire, mais tu entends, tu sens, donc tu vibres avec cette glace-là. Et quand tu ressens tous ces sens-là, tout bouge, tout est en communion avec cette nature-là, mais on dirait qu'après ça, c'est très difficile de s'en passer. Mm. Donc moi, je suis allé 42 fois dans l'article. L'année passée, j'ai pas pu y aller en 2020. Et là, mon plus grand souhait, c'est d'essayer d'y retourner le plus vite possible, ce qui va se faire probablement en 2022. Et c'est très difficile parce que, tu sais, quand on est en tournage, il y a des moments extraordinaires, il y a des moments un peu plus pénibles parce que tu passes 7 semaines dans une tente là, aussi humide, aussi où il fait froid, puis où il faut que tu plonges. Puis je dirais que j'ai déjà eu des petits moments de découragement des fois en me disant « Oh là là, là, ça va faire, c'est fini pour moi l'article. » Et je reviens à la maison, puis 3 semaines, 1 mois après, je suis prêt à repartir parce que justement, c'est trop prenant. C'est d'une beauté, mais je pense, comme tu expliquais, c'est la communion avec la nature. Hein. C'est ça qui est important.
Exactement, tu sentir que tu fais un avec l'univers, parce qu'il n'y a pas grand monde qui peuvent vivre ces moments-là, ce que tu vis là.
C'est des moments uniques, vous avez raison, Jacques, tout à fait. Des moments uniques avec une plénitude, une sérénité, puis la plongée, c'est ça que ça donne aussi, Mario. En terminant, il y a dans cette activité qui est un vrai sport, puis qui ça nous ouvre l'esprit, puis ça nous ferme la bouche parce qu'elle est occupée avec des tendeurs pour qu'on puisse respirer. Mais tu sais, moi qui parle tout le temps, là, parce que c'est ça que je fais dans la vie, moi, le fait d'aller sous l'eau, puis de me mettre le détendeur dans la bouche, puis d'écouter le monde du silence, on boucle notre boucle avec ça, ça fait toute la différence.
Ouais, puis moi, je pense que c'est aussi une espèce de retour aux sources. Hein. On a quand même passé 9 mois dans un liquide, là, donc dans le ventre de notre main, puis j'ai l'impression qu'on est... Quand on est dans l'eau, puis qu'on est bien dans l'eau, la star, là, faut pas avoir froid, faut pas avoir chaud, qu'on est bien dans ce milieu liquide-là, et que, tu sais, il n'y a pas de peur, il n'y a rien. Écoute, on ne peut pas être dans le meilleur endroit au monde. Hein. C'est vraiment extraordinaire parce que ça a vraiment l'apesanteur. Donc, on c'est comme si on volerait dans le ciel. Là.
Ah, ouais.
Et c'est pour ça que on ne peut pas ça. On peut pas, quand on a bien goûté à ces moments-là, c'est très difficile de s'en passer par après. Là.
Ah, c'est sûr. Écoute, tu as tellement d'autres projets. On te réinvitera au moment de fin mai, début juin, là, parce que il faut quand même rappeler que Sous les glaces avec Mario Cyr sera présenté au studio Éloise du Vieux-Montréal. Ce sera du 2 juin au 31 octobre. Les billets sont en vente dès maintenant. Vous allez sousleglaces.com. Et bien sûr, après, ça partira en tournée, c'est sûr. Ça va être assez... Écoute, je vais être là. C'est sûr, moi, je veux voir ça. On aura l'occasion de s'en parler. Tiens, le 1er juin, là, tu reviens à notre émission puis tu nous en reparles parce que tu as tellement d'autres projets. On a juste effleuré toute ton œuvre, Mario. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.
Ben, ça me fait plaisir, Isabelle. Puis, ben oui, c'est un rendez-vous, pas de problème. Moi, je serai là pour l'ouverture le 2 juin aussi à Montréal. Là.
Voilà, puis on se laisse avec la belle musique là, de cette prochaine exposition que vous allez pouvoir voir. Et on s'arrête ici pour faire place aux oiseaux. Et Pierre Verville, après la pause, restez là.